France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Beethoven Alive, c'est le nom d'une édition dans laquelle s'est lancée la maison de disques Harmonia Mundi, avec une série de nouveaux enregistrements qui paraissent entre 2020 et 2027. Pourquoi 2020 cette année? C'est le 250e anniversaire de la naissance du compositeur et 2027, ce sera le 200e anniversaire de sa disparition, édition à laquelle vous participez. André Achtailleur, bonjour.
Bonjour.
André Achtailleur, aussi connu comme pianofortiste que comme claveciniste. De Beethoven, André Achtailleur, vous aviez déjà enregistré les variations Diabelli, des trios, mais jamais de sonates. Pourquoi vous avez attendu le moment venu ou c'est un hasard de calendrier?
Depuis longtemps, ces trois sonates, opus 31, m'ont passionné d'une façon spéciale. Et c'est toujours aussi un peu par hasard. Peut-être ce... Le côté de Beethoven qui me fascine le plus, c'est que il était conscient, plus conscient de son développement comme compositeur que les compositeurs avant lui. Il se demandait des questions d'une façon que Mozart, par exemple, n'avait pas encore besoin de se poser. Et ce côté de discussion avec lui-même, je trouve peut-être pour moi personnellement le côté le plus passionnant. C'est dans un autre genre, avec les variations Diabelli, il fait aussi une discussion du matériau musical, de l'attitude vers le matériau. Il y a une espèce de sarcasme vis-à-vis le matériau dans les variations Diabelli. Dans les sonates 30, opus 31, il y a la comparaison avec l'architecture. Donc une forme d'une certaine symétrie musicale était comparée avec un édifice.
On va revenir sur cette passion un peu spéciale que vous évoquiez pour ces sonates opus 31. Ein neuer Weg, en français, ça veut dire un nouveau chemin. C'est le titre de ce double disque. Il paraît aujourd'hui chez Harmonia Mundi, des variations, opus 34, opus 35. Et ces trois sonates de l'opus 31, dont celle-ci, la 17e, qui fut baptisée un peu plus tard, La Tempête.
Thank you.
La fin de la 17e sonate de Beethoven, opus 31, numéro 2, la sonate La Tempête, extraite du nouveau disque d'André Steyer, notre invité ce matin. Sonate La Tempête, d'ailleurs, le titre n'est pas de Beethoven, de l'éditeur, même s'il aurait conseillé aux auditeurs de lire La Tempête de Shakespeare, c'est ça?
Oui.
Vous l'avez lu?
J'ai lu La Tempête, mais pas à cause de la sonate.
Pourquoi ce titre, Ein neuer Weg, un nouveau chemin, donc?
Ça, c'est une citation. Beethoven a dit à un ami, je suis pas content avec les compositions que j'ai faites. Maintenant, je vais essayer quelque chose d'autre, de neuf, à neuer Weg. Et ça, c'est à peu près tout. Il a pas expliqué à cet ami qu'est-ce que c'était exactement dans le détail de la composition, un chemin nouveau. Évidemment, il y a beaucoup de possibilités. Dans cette sonate, La Tempête, il y a, dans le premier mouvement, les débuts, qui est très fameux, qui commence comme une introduction avant la vraie pièce, dont on comprend plus tard qu'en fait, c'était pas une introduction, mais c'était déjà la formulation du premier thème.
André Steyer, toutes ses œuvres ont été écrites en 1802, opus 31, opus 34, opus 35, en quoi cette année marque-t-elle un tournant dans son destin?
Ce sont les années quand Beethoven a abandonné l'espoir que ses oreilles allaient s'améliorer. Donc c'est le temps du fameux testament de Heiligenstadt. C'était une période de grande dépression pour lui à cause de ça, parce que ça voulait dire il pouvait plus continuer comme virtuose. Donc une source de revenus était
disparue.
C'était pas encore tout à fait sûr que avec la composition il allait gagner suffisamment d'argent, mais en même temps, évidemment, ses pensées sur la musique se développent pas seulement en réaction sur des problèmes de sa vie quotidienne.
Ces trois sonates de l'opus 31, en quoi elles composent un recueil? Elles se répondent entre elles?
D'une certaine façon, certaines idées sur la façon de commencer une pièce. Par exemple, la sonate Tempête commence presque avant de commencer. La troisième sonate, par contre, elle commence comme si on a ouvert une porte et la musique était déjà en train d'être jouée. Donc ça commence au milieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Commencer avant de commencer ou commencer trop tard. Donc des jeux comme ça, il y a quelques similarités de motifs, mais ça c'est moins important, je pense.
André Steyer, merci beaucoup. Le voici.
Merci.
Vos mots, c'était maintenant. La musique, c'est tout de suite le presto de l'opus 31, numéro 3 de Beethoven. C'est sur ce magnifique disque qui sort aujourd'hui. Thank you. Voilà, Beethoven, le presto de la sonate opus 31, numéro 31 si vous préférez, numéro 3, presto con fuoco, Andrea Steyer au piano forte sur ce magnifique instrument, c'est un disque Harmonia Mundi qui sort aujourd'hui, France Musique, 8h30.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Tiens, encore un disque Harmonia Mundi, on n'a pas d'action, hein, mais chacun de ces disques est désormais très attendu par les amoureux de musique ancienne. C'est Sébastien Dossé qui est avec nous ce matin. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Et son ensemble Correspondance qui sort un nouveau disque. Ça sort la semaine prochaine. Ça s'appelle Les Plaisirs du Louvre, sous-titré R pour la chambre de Louis XIII. Un disque soutenu à choix France Musique. On va le découvrir en avant-première, donc jusqu'à 9h, des concerts également ce soir à Lyon, à la Chapelle Trinité. Évidemment, on peut pas, on n'est pas dans une bulle, on peut pas faire comme si on n'était pas dans un monde en crise. Vous-même, vous êtes, j'imagine, Sébastien, dans la plus pure incertitude pour ces prochains jours. Les concerts seront-ils maintenus ou pas?
D'une part, pour les prochains jours, mais aussi pour la suite, parce qu'on est... On est aussi des toutes petites structures et très fragiles. Donc pour nous, des annulations, je ne dis pas qu'elles sont sans incidence pour l'Opéra de Paris quand ça dure des semaines, mais pour nous, un concert annulé, ça nous fragilise énormément. On est dans cette tempête, on n'est pas des grands paquebots, on est des frêles esquifs. Donc nous, on est très inquiets pour les mois et les années à venir. Je pense que l'enjeu, c'est de savoir si de cette tempête, on va simplement, si on ne va pas couler, tout simplement.
Vous êtes, comme on dit en économie, une TPE, une toute petite entreprise. Les correspondants, c'est combien de salariés, par exemple?
En salarié, il y a 4 personnes qui travaillent au bureau, mais on représente beaucoup d'emplois pour les musiciens.
Donc qui sont intermittents.
Qui sont tous intermittents. Donc il y a derrière ces annulations, pour eux, c'est de l'emploi qui disparaît. Donc quand ils sont intermittents, c'est pas le cas de tout le monde. Ils seront indemnisés d'une certaine manière, mais pour tous ceux qui ne le sont pas, ça pose vraiment des problèmes pour vivre dans les prochaines semaines. Donc voilà. Et puis d'autre part, pour la structure elle-même qui est relativement peu subventionné par rapport aux ensembles historiques, on peut dire.
Très peu. Hein.
En ce moment, 10%. On doit être à 10% à peu près. C'est plutôt aux alentours de 40% pour les anciens ensembles. Mais voilà, ça nous fragilise d'autant plus. Et je pense que voilà, on sera très attentif aux solutions que pourra proposer le gouvernement, parce qu'elles seront nécessaires.
Être directeur artistique, être chef d'un ensemble, c'est aussi être chef d'entreprise?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, il faut se soucier de l'avenir. On pense pas simplement aux journées bénies de recherche à la Bibliothèque nationale ou aux formidables journées de répétition ou de concert. Il y a aussi tout ce qui va avec. Il y a aussi la charge de la responsabilité de se projeter dans l'avenir et pas seul. C'est-à-dire avec une équipe de gens qui sont là en permanence, mais aussi avec toute une équipe de musiciens qui sont tous indépendants.
Donc espérons que ces prochains concerts auront lieu, si en tout cas c'est possible d'un point de vue sanitaire. On referme la parenthèse, on va parler musique, on va écouter ce nouveau disque qui sort dans une semaine. D'ailleurs, le disque donc, qui sort dans une semaine, c'est une étape importante, c'est un nouveau projet, mais même chose, le disque n'est pas forcément une source de revenus importante pour un ensemble aujourd'hui, si quand même.
Ce que nous apporte toujours le disque aujourd'hui, c'est pouvoir partager nos projets au-delà du concert. Et c'est quelque chose qui nous sert toujours vraiment. Alors le disque lui-même, il va forcément se transformer, il va progressivement se digitaliser. Mais en tout cas, ça reste quand même des étapes essentielles dans notre parcours.
Donc on peut écouter plusieurs plages sur ce disque. Tiens, si on commençait par Louis XIII, la musique écrite par Louis XIII.
Thank you.
Trois plages instrumentales enchaînées de ce disque Les Plaisirs du Louvre qui paraît la semaine prochaine, le nouveau disque de l'ensemble correspondant Sébastien Dossé. C'était d'abord une musique signée, Louis XIII, Les Gascons, et puis deux pièces anonymes, Monsieur Diancourt et Les Valets de la Fête, mais qui ont en commun d'être des pièces qui ont été dansées par le roi Louis XIII. D'abord, Louis XIII composait.
Alors, Louis XIII était un des grands rois musiciens. Il était passionné de musique, jouait, aimait s'entourer en permanence de musiciens. Il a lui-même composé la musique vocale et tout un ballet de cour dont est extraite la première danse. Donc souvent quand on parle du XVIe siècle et de la musique, on parle de Louis XIV, prince des arts, etc. On voit Versailles, mais probablement un des plus passionnés, sincèrement passionnés par la chose musicale, c'est Louis XIII.
C'est le point de départ de ce nouveau projet, de ce nouveau disque.
Ben le point de départ, c'est continuer sur une ligne.
Mais vous remontez le temps parce que vous étiez avec le ballet de la nuit, l'avènement du jeune Louis XIV. Là, Charpentier, on était encore un peu avant, et là, on est encore avant. Jusqu'où allez-vous arrêter?
Ben là, on commence un petit peu plus tôt parce qu'on commence dans les années 1620. Ouais. Mais l'idée, c'était de faire comme les gens à l'époque qui étaient passionnés de musique prenaient un recueil et copiaient leurs airs favoris. C'est un petit peu ce principe d'anthologie où on repart de la première génération des compositeurs d'art de cour comme Guédron, la deuxième génération avec Antoine Boesset, qui est un de mes compositeurs favoris, et puis aller jusqu'à Moulinier, qui est la fin de cette tradition de l'art de cour. Et tous ces compositeurs-là, à la fois, ont composé pour les salons, donc on pourrait dire des sortes de miniatures, mais aussi ils ont composé pour les grands divertissements royaux, que sont les ballets de cour. Donc ils ont composé aussi des airs qui sont peut-être davantage dramatiques et qui annoncent ce que sera l'opéra quelques années plus tard.
Pourquoi on parle, Sébastien Dossé, de la chambre du roi, les airs de la chambre?
Parce que la chambre du roi, c'est une partie des corps musicaux de la cour. Il y a l'écurie, il y a la chapelle et la chambre. Donc on pourrait dire que c'est l'entourage proche du roi. Et dans cet entourage proche, dans cette domesticité-là, il y a toute une équipe musicale avec des chanteurs, des hommes essentiellement, quelques enfants pour faire les parties de dessus, et puis des instruments, généralement des viols, des luths, des épinettes, des flûtes. Donc toute une petite équipe comme ça qui fait sonner la musique autour des appartements royaux, et donc l'air de cour est vraiment le genre de prédilection de ce corps.
Appartements royaux qui sont au Louvre, les plaisirs du Louvre, il n'y a pas encore Versailles à cette époque. Et donc, où sont jouées ces musiques? En extérieur, dans ces appartements dont vous parliez?
Oui, alors c'est intéressant parce que souvent, effectivement, on parle de Versailles aussi comme de Louis XIV. Bon, Versailles existe, hein, c'est un petit pavillon de chasse, oui. Mais il ne s'y passe pas grand-chose. Le Louvre est un des épicentres de la cour qui, à cette époque-là, bouge sans cesse. C'est-à-dire que les grandes résidences royales de Chambord, de Fontainebleau sont aussi des lieux de prédilection de la cour. Mais au Louvre, effectivement, l'idée c'était, nous on voit le Louvre, on voit ce musée incroyable, on n'imagine pas toujours quelle musique y a résonné. Donc ce petit florilège là qu'on a enregistré, c'est davantage la musique de l'intérieur, la musique des appartements royaux, mais qui pouvait être aussi la musique des salons qui étaient en ville, autour des grandes figures de la préciosité, Rambouillet, etc. Donc ça, c'est vraiment un genre qui circulait entre la cour et les salons.
Alors, il y a beaucoup de noms de compositeurs. Vous citiez Antoine Boesset qu'on écoutera tout à l'heure, qui est moins connu. Peut-être l'un des plus connus aujourd'hui, en tout cas depuis quelques années, c'est Étienne Moulinier. Vous le situez à quel moment? C'est un des premiers, si on prend chronologiquement sur ce règne.
C'est plutôt la fin du règne de Louis XIII et déjà sous Louis XIV. Mais ce qui me fait très plaisir, c'est que vous disiez que depuis quelques années, on connaît plus Moulinier. Mmh. Alors ça me fait vraiment plaisir,
vrai.
Parce que Moulinier, c'est vraiment un très grand compositeur dont la mémoire a passé, et je pense qu'elle revient un petit peu aujourd'hui, et j'en suis vraiment très heureux.
D'où viennent ces musiques? Comment vous les avez retrouvées, découvertes, ou est-ce que tout était facile d'accès?
Alors c'est de la musique qui avait beaucoup de succès à l'époque, donc elle a été publiée. Donc c'est quelque chose qui dont la trace n'a pas complètement disparu, et puis pour collecter tout ça. Moi, j'en ai lu beaucoup, mais surtout j'ai travaillé en collaboration avec Thomas Lecomte, qui est le musicologue le plus connaisseur de tout cet univers-là, et avec qui on a beaucoup travaillé à cette sélection-là pour arriver, voilà, à une sélection où il y a Boesset probablement comme figure centrale, mais aussi des raretés comme François de Chancy, qui est aussi un des grands compositeurs qui avait du succès à cette époque-là et qui était dans l'entourage du cardinal de Richelieu. Donc voilà, à la fois les grands airs qui ont fait la notoriété de ce genre au XVIIe siècle, mais aussi des belles découvertes.
Il y a beaucoup de musique qui se danse sur ce disque, mais pas seulement. Au doux sommeil qu'on va écouter, par exemple, là, c'est pour aider le roi à s'endormir.
Peut-être.
Doux sommeil, non, ne vous endormez pas, hein. Il est 8h45 et c'était les voix de Caroline Wenant, comment on dit
Wenants,
voilà, Caroline Bardot, Lucille Richardot, l'ensemble correspondance dirigé par notre invité ce matin, Sébastien Dossé, pour ce disque qui paraît dans une semaine qu'on pourra écouter quoi qu'il arrive, Les plaisirs du Louvre, air pour la chambre de Louis XIII. Alors ici, il y a une basse continue assez simple, mais parfois, il y a... Je ne sais pas si on peut dire orchestration, mais en tout cas, il y a des choix musicaux, il y a des arrangements à faire. On a juste une ligne mélodique et on doit s'en emparer, imaginer, recréer.
Ah, il y a plein de choses à faire avec cette musique, mais la première chose, c'est d'abord de s'approprier le langage. C'est-à-dire que quand une tradition a disparu, il faut non seulement se la réapproprier, mais en faire quelque chose de naturel. Donc ça, je pense que c'est beaucoup avec ça part beaucoup du chant et c'est, vous parlez de Caroline Bardot, c'est vrai que c'est une des chanteuses qui maîtrise le mieux l'art de l'ornementation. Donc je pense que tout le monde s'inspire de ça pour reconstruire un langage qui nous semble naturel à tous. Alors ensuite sur les choix de d'instrumentation, de d'orchestration, on se limite à cette petite équipe qui était celle de la chambre du roi, c'est-à-dire quelques viols, les flûtes, etc. Donc la variété, elle va venir beaucoup de l'ornementation, de tous ces choix qui vont donner un visage ou un autre à la musique. Mais c'est vrai qu'un même air de cours peut prendre un visage tout à fait différent par un autre interprète. Et puis sur cette question de l'ornementation, c'est aussi quelque chose qui donne un visage complètement différent à un air, parce que quand on le reprend, ça s'appelle un double. Et on en donne une version tout à fait modifiée, ornée, etc. Donc on reconnaît parfois à peine l'air lui-même au fil des strophes.
Ces airs pour la chambre de Louis XIII, Sébastien Dossé, ils circulent d'ailleurs, ils sortent du cadre royal. Ils vont dans la vie, dans la ville, on peut les réentendre.
Oui. Mais d'abord, ils sont nés dans les salons. Ils sont ensuite arrivés à la cour, donc c'est déjà une sorte d'importation, de réappropriation par la cour. Et ensuite, sont des airs qui avaient tellement de succès que d'abord, ils étaient publiés. Ça veut dire qu'ils étaient viables commercialement. Et puis ensuite, ils avaient tellement de succès, parfois avec des textes à la frontière de l'érotisme, que les religieux se le réappropriaient, transformaient les paroles, en faisaient des parodies spirituelles, où la bergère Sylvie, qui était tout à fait légère dans sa conduite, devenait Marie-Madeleine au pied de la croix.
Il y a des cas comme ça sur le disque de transformation des textes.
Oui, on a pris quelques textes. Ben, pour certains airs qui avaient déjà été enregistrés, par exemple les airs de Guédron, on a choisi de prendre les parodies spirituelles. Parce que ça donne aussi un visage tout à fait différent à un air que de l'entendre avec des paroles qui parfois contredisent l'original. Encore une fois, on passe de la suavité, de la sensualité, de l'érotisme à une vision tout à fait endolorie d'un martyr ou d'une femme au pied de la croix.
On écoutait la musique d'Étienne Moulinier à l'instant. Vous citiez donc qu'on écoute, qu'on entend de plus en plus ces dernières années. Ça vous fait plaisir et ça nous fait plaisir. Antoine Boisset, en revanche, est moins connu. Vous disiez que c'était votre préféré. Qui est-il ?
Alors, c'est un compositeur qui est né à Blois et qui a toute une carrière absolument prestigieuse pour finir à la cour de Louis XIII. Et c'est un des très grands compositeurs, non seulement d'air de cour, mais aussi des ballets royaux. Donc, ces ballets, généralement, on en a perdu la trace, ou en tout cas, il en reste que des parcelles. Mais on voit, à travers tout ce qu'il est resté d'Antoine Boisset, le talent, l'invention de ce type, qui est absolument incroyable, et aussi incroyable dans les visions qu'il avait, et notamment, je pense que c'est un des inventeurs, des ingrédients de l'opéra qui va naître. Il y a chez lui des sortes de scènes qui sont déjà très dramatiques, très théâtrales, et qui sont vraiment des préfigurations de ce dont se servira Lully quelques années plus tard.
Sur ce disque, tout est en français, sauf un air que j'ai choisi qui est en italien, parce que j'ai trouvé particulièrement réjouissant pour le matin. C'est quoi cet air en italien ?
Ben, c'est cette petite fantaisie, cette petite coquetterie qu'avaient les compositeurs de l'époque de composer dans des langues étrangères. Donc il y a des airs italiens chez Boisset, mais il y en a aussi chez Moulinier. Il y a aussi chez Moulinier des airs en espagnol, en provençal. Donc ça fait partie de tout le jeu qui y a dans les salons, les jeux littéraires, les fantaisies qu'on s'accorde avec les textes, et les compositeurs suivent cette rivière.
Voici la musique d'Antoine Boisset, texte en italien. Ma più ritornerà, né tu irà, né tu irà. La musique d'Antoine Bouessé, c'est quoi qui voit l'inico amore, ce qui veut dire Sébastien Dossé.
Le suit qui veut cet amour inique.
C'était l'ensemble correspondance, les plaisirs du Louvre, air pour la chambre de Louis XIII, disque Harmonia Mundi, sorti la semaine prochaine. Ici, citons quand même Caroline Wenans à nouveau, Caroline Bardot, Marc Moyon et Nicolas Breumans. J'espère que je prononce bien, ça va à peu
près. Je crois que c'est parfait. Et David Tricou dans cet air.
Ah, et David Tricou dans cet air. C'est une troupe, en fait, c'est toujours un peu les mêmes. Vous avez l'impression d'être une compagnie. Les correspondances, il y a les musiciens et puis il y a aussi ces chanteurs qui reviennent d'un projet à l'autre.
Ouais, bah, pour les instrumentistes comme pour les chanteurs, c'est l'idée de, quand on travaille surtout quand on travaille sur des répertoires aussi spécifiques, pour pouvoir capitaliser un peu tout ce qu'on apprend ensemble d'un projet à l'autre, bah, il faut qu'on soit une équipe un peu fixe et il faut qu'il y ait une sorte de fidélité comme ça au long cours. Et puis voilà, moi je suis très content de ça. C'est aussi une des choses qui me motive beaucoup dans la manière dont je fais ce métier.
Sébastien Dossé sur ce projet, Les Plaisirs du Louvre. Alors il y a des concerts, on verra s'ils ont lieu ou pas prochainement. C'était prévu en tout cas le 20 mars à l'Auditorium du Louvre à Paris. Et puis le 4 juin, c'est un peu plus loin, donc espérons à Montpellier. Ça peut être aussi un spectacle, il y a des ballets, il pourrait y avoir des danseurs, des danseuses, une mise en scène. Ou c'est pas trop l'esprit ici?
Alors, ça pourrait partiellement, pour toute la partie justement des airs de ballet, c'était lié à un spectacle vraiment qui convoquait de la scénographie, de la danse. Donc, pour cette partie-là, oui. En revanche, pour les airs de cour, c'était vraiment un genre de salon, donc ça s'y prêterait moins.
Évidemment, le Ballet Royal de la Nuit est un moment important dans la vie de votre ensemble qui a marqué, qui est un événement de musique ancienne de ces dernières années, qui sera repris prochainement en mai pour l'anniversaire de l'Opéra Royal de Versailles. Pour vous aussi, il y a vraiment un avant et un après ce Ballet Royal de la Nuit?
Bah, je pense que c'était une étape importante. C'était pour nous le premier très gros projet scénique. C'était montrer aussi dans un univers conventionnel qui est celui de l'opéra quelque chose de complètement anti-conventionnel qui est un ballet de cour. Et puis c'était le début de notre relation avec le théâtre de Caen qui est devenu au fil des ans notre maison principale, parce que aujourd'hui on est né à Lyon et on a vécu à Lyon pendant quelques années, mais aujourd'hui on pose vraiment nos valises au théâtre de Caen où on est accueilli depuis 2016, mais aujourd'hui on s'installe vraiment en Normandie. Donc le ballet de la nuit, c'était aussi symboliquement le début de cette collaboration avec le théâtre de Caen et puis maintenant avec la région et la ville.
La région Normandie, vous serez fin avril et courant mai au théâtre de Caen et à l'opéra. Sébastien Dossé, les airs de la cour. Le disque sort, mais je vous propose quand même qu'on se quitte avec ce Ballet Royal de la Nuit, même si le jour se lève et le jour arrive, et dehors, il fait beau.
Je ne veux pas.
D'un Louis à l'autre, c'était un extrait de cette musique anonyme du Ballet Royal de la Nuit. Encore Caroline Bardot, de l'ensemble Correspondance, dirigée par notre invité ce matin, Sébastien Dossé. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.